Donc, le focus, en quelques mots, sur le syndrome des jambes sans repos, la prévalence, on a parlé, nombreuses comorbidités, très peu de connaissances du grand public, on est là pour en parler aujourd'hui. Un autre souci, peu de formation dans les études médicales, avec très peu de spécialistes, ce qui sont surtout les spécialistes du sommeil. Mais l'anesthésie, c'est un souci, puisqu'il y a quelques patients illustres qui se sont luxés une prothèse de hanche, puisqu'ils avaient un syndrome des jambes sans repos qui a été mal géré, parce que le traitement a arrêté, et donc... problème majeur au décours de l'intervention. Les gynécos qui sont absolument pas au courant, et pourtant au troisième trimestre, c'est fréquent d'avoir un troisième secteur et une carence en fer relative. Les gériatres, parce que c'est une maladie qui est fréquente avec l'âge. Très peu de financement et de recherche sur la physiopathologie et la thérapeutique. Et donc, il y a des traitements qui sont efficaces initialement, avec un suivi nécessaire, dont reparlera Christophe. Mais ce qui est très important, c'est qu'il n'y a eu aucun développement des médicaments qu'on donne dans le centre des jambes sans repos qui a fait l'objet d'un développement pour le syndrome des jambes sans repos. Je m'explique. Les médicaments qui ont l'AMM dans le syndrome des jambes sans repos sont des médicaments qui ont déjà une AMM dans une autre indication. Et le Lyrica et le Neurontin, pour ne pas les nommer, n'ont pas d'AMM dans le syndrome des jambes sans repos, mais sont donnés pour des douleurs neuropathiques, l'épilepsie ou autre. Donc il n'y a aucun développement de médicaments innovants dans le syndrome des jambes sans repos, ce qui pose un souci majeur, et notamment de remboursement. Et... ce qui est très étonnant dans cette Commission européenne, c'est qu'il y a une énorme variabilité entre les pays, puisqu'on est un des rares pays à ne pas avoir de remboursement pour les médicaments dans le syndrome des jambes sans repos, à la différence de l'Allemagne. Et je vous parlerai d'un petit médicament à la fin, où on ne l'a même pas en France. Le coût estimé est majeur. Alors voilà les différentes maladies qui ont fait l'objet de ce travail. Alors évidemment, il y a un peu de psychiatrie aussi, désolé. C'était une autre commission. Mais le syndrome des jambes sans repos, vous voyez que le coût pour la santé, donc France, voilà, j'en ai oublié un, mais je l'ai oublié là aussi, désolé. Et donc le syndrome des jambes sans repos, est, vous voyez, est très important en termes de coût, et plus important que sclérose en plaques Parkinson. Ça paraît un petit peu étonnant, du fait surtout du coût des médicaments pour la sclérose en plaques actuellement, qui ont des remboursements majeurs. Mais on peut expliquer pourquoi, et j'ai quelques explications, si ça vous intéresse, je pourrais vous dire pourquoi. Alors pour finir, j'ai essayé d'être un petit peu innovant, et de vous proposer la médecine de demain, qui fait l'objet de beaucoup de convoitises, la médecine P4. Donc la médecine P4, c'est la médecine préventive, personnalisée, prédictive et participative. C'est la médecine de demain. C'est là que les financements vont, et c'est ce qu'il faut envisager pour nos patients à l'avenir, pour envisager une prise en charge adaptée, personnalisée. Alors, si on veut l'adapter au syndrome des jambes sans repos, est-ce qu'on peut prévenir cette maladie? Bah non, à ce jour, non. Mais est-ce qu'on peut la dépister? Bah oui, notamment devant une plainte d'insomnie. C'est bien le souci, puisque justement, c'est ce qui a été mis à la Commission européenne et ce qui coûte très cher, c'est que les patients consultent pour insomnie le plus souvent, parfois mouvements normaux, mais c'est assez rare, souvent pour insomnie, et le médecin généraliste le plus souvent ne pose pas ce diagnostic et va traiter l'insomnie, qui va être donc pas une réponse adaptée à la prise en charge de son syndrome des jambes sans repos. Donc il y a une errance diagnostique et de prise en charge, et c'est ce qui coûte le plus cher, puisqu'il y a un absentéisme lié au mauvais diagnostic et à la mauvaise prise en charge. Prévention, éviter les carences en fer. Donc, il y avait une belle étude qui montrait que 30% des donneurs de sang répétés avaient un syndrome des jambes sans repos. Et surveillance, comme prescription de psychotropes, neuroleptiques et antidépresseurs. Et l'avenir, pourra-t-on envisager de regarder les allèles à risque en population générale pour le suivi? Et éventuellement, les formes familiales, j'aurais pu le mettre aussi, donc de dépister les descendants. Donc ça, c'était la prévention. Maintenant, la médecine personnalisée, est-ce qu'on peut envisager une prise en charge différente en fonction des mouvements périodiques ou des comorbidités cardiovasculaires? Oui, ceci a été déjà largement rapporté, puisque les agonistes dopaminergiques, surtout à demi-vie longue et à faible dose, permettent de mieux traiter les mouvements périodiques et donc, par voie de conséquence, les maladies cardiovasculaires, beaucoup plus que ne le ferait le Lyrica ou le Neurontin. Donc oui, on peut être personnalisé. Mais à ce moment-là, il faut faire une polysomnographie. Et moi, je pense que pour une maladie chronique qui va rester toute sa vie pendant 30-40 ans, c'est pas la même chose d'avoir un syndrome des jambes sans repos avec un syndrome de mouvement périodique sévère ou pas. Donc moi, je pense que si les gens ne sont pas traités, c'est pas du luxe, et je pense que ça peut même diminuer le coût en fonction de la prise en charge, de prévenir des maladies qui pourront être des complications du syndrome des jambes sans repos. Même si c'est pas dans les guidelines, c'est mes guidelines à moi, qui n'engagent que moi. S'il y a des maladies, des symptômes associés, insomnie, douleur, on préférera les alpha-2-delta. S'il y a des troubles psychiatriques, ça a été édité aussi, Si vous avez des troubles de l'humeur, les agonistes dopaminergiques marchent mieux. Si vous avez une anxiété ou des troubles du comportement des impulsions, dont je pense reparlera Christophe, on faudra privilégier les alpha 2 delta. Et encore une fois, pour la médecine personnalisée, la prédisposition génétique, on sait que les gens qui sont avec l'allèle à risque MICE1 ou BTBD9 ont plus de mouvements périodiques des jambes, donc ils sont plus à risque de maladies cardiovasculaires, donc peut-être qu'il faudra plus les suivre ou mieux les traiter, et donc avoir un suivi régulier plus important. Donc, Lorraine n'en a pas parlé, mais il y a clairement une augmentation de la prise d'antihypertenseurs chez ces patients, une augmentation de l'histoire d'une maladie cardiovasculaire type infarctus du myocarde ou accident vasculaire cérébraux chez ces patients. Donc vraiment une association plus importante, d'autant plus que le syndrome des jambes sans repos est fréquent. Une seule diapo pour vous expliquer pourquoi. Est-ce que vous pourriez me dire pourquoi est-ce qu'ils ont plus de maladies cardio-cérébrovasculaires? L'hypothèse la plus probable, donc on vous a montré ces mouvements périodiques des jambes, et si on fait un focus sur un mouvement de jambe, juste avant le mouvement de jambe, au début du mouvement de jambe, vous voyez que la tension artérielle systolique, elle augmente, la diastolique, elle augmente, et la fréquence cardiaque augmente. Et si vous sommez tout ça, vous avez de tous les mouvements périodiques, qu'il y ait une réaction d'éveil ou pas, peu importe, vous avez une augmentation de la systolique, de la diastolique et de la fréquence cardiaque. Et ceci est donc peut-être très fréquent s'il y a beaucoup de mouvements périodiques, et c'est d'autant plus fréquent que vous avez l'allèle à risque MICE1, qui va changer votre système nerveux autonome et qui va changer votre activation sympathique la nuit. Médecine prédictive maintenant, troisième P du P4. Le profil évolutif va être potentiellement différent selon les facteurs génétiques, justement, plus à risque de maladies cardio-cérébrovasculaires. C'est en cours actuellement d'études. Les facteurs environnementaux, on en a parlé. Si vous êtes carencé en fer, il va falloir vous en donner, PEROS ou IV, mais je pense que vous allez en reparler, et éviter tous les facteurs aggravant l'insomnie. Il faut un suivi personnalisé, le dépistage des comorbidités, grossesse, insuffisance rénale, dons de sang répétés. Et surtout, dépister les mauvais répondeurs au traitement pour éviter d'augmenter les doses. Ça, c'est très important comme message. Si les gens ne répondent pas aux agonistes dopaminergiques, n'augmentez pas les doses parce que vous allez risquer un syndrome d'augmentation. Aussi, les échappements, c'est important. Les gens peuvent être bons répondeurs au début, puis échapper. C'est ce qui nous arrive au quotidien quand on suit nos patients. Et dépister aussi des complications qui peuvent être l'insomnie, la dépression, les maladies cardiovasculaires dont j'ai parlé. Donc, à l'avenir, il faut que pour une médecine de prédiction, avoir des biomarqueurs qui reste non à valider à ce jour, sur le pronostic, la sévérité, la bonne réponse au traitement. Et vu que certains vont faire un syndrome d'augmentation, certains vont, jusqu'à 10% des patients peuvent avoir un trouble du comportement des impulsions sous agonistes dopaminergiques, il faudrait trouver des biomarqueurs, parce que ce n'est pas tous ces patients, et pour essayer de préciser cela, et on y travaille actuellement. Les deux plus connus sont des biomarqueurs de polymorphisme génétique dont on vous a parlé. Il y a le biomarqueur aussi de la carence en fer, avec la ferritine, qui est un très mauvais reflet, puisque c'est ce qui se passe dans le cerveau, mais on ne va pas faire une ponction lombaire à tous ces patients, bien que maintenant c'est un biomarqueur très simple, la ponction lombaire, ça prend une minute à faire, mais c'est une autre discussion. Et quand vous avez un syndrome des jambes sans repos réfractaire, qui ne répond plus, soit ne répond pas, ou soit ne répond plus à la prise en charge conventionnelle, il faut absolument vérifier le diagnostic. Est-ce que vraiment les gens avaient vraiment cette pathologie? Vérifier s'il n'y a pas une comorbidité psychiatrique, vérifier s'il n'y a pas, qui pourrait expliquer le fait qu'ils ne répondent pas, voir si par exemple il n'y a pas un problème d'insomnie majeur qui est indépendant du syndrome des jambes sans repos, s'il n'y a pas une neuropathie, un syndrome d'apnée du sommeil, une carence en fer. Est-ce que les gens vraiment tolèrent bien les médicaments? Est-ce qu'on est sûr qu'ils les prennent bien? Il y a un gros souci qui est la compliance des traitements pour les maladies chroniques. On considère que 60% des patients prennent leur traitement au quotidien quand on a une maladie chronique du système nerveux central, ce qui est quand même très embêtant. Ces études ont été surtout faites dans la maladie de Parkinson, c'est quand même un gros souci, et dans le syndrome des jambes sans repos, c'est des études qu'il faut mener puisqu'on n'a pas ce genre de données. Donc quand on a un syndrome des jambes sans repos réfractaire, on a plusieurs choix fonction du traitement que les patients avaient avant. Soit on passe à Neurontin Lyrica, en pouvant augmenter les doses, on peut avoir des doses assez importantes de Neurontin notamment. Soit on change d'agoniste dopaminergique de l'un à l'autre, soit on propose un opioïdergique, la codéine, le tramadol ou l'oxycontin, soit on peut associer et non pas rester en une seule classe médicamenteuse. Parfois, il faut associer plusieurs classes. Alors, c'est ce traitement dont je vous parlais qui a fait l'objet d'un très joli travail européen publié dans Lancet Neurology, qui est l'association oxycontin-naloxone, la naloxone étant, ayant pour but d'inhiber en périphérie tous les effets secondaires que peut avoir ce genre de traitement opioïdergique, donc notamment nausées, troubles digestifs, constipation. Et donc c'est un traitement qui est efficace, avec une étude bien faite, encore une fois, double aveugle contre placebo chez des patients résistants, et vous voyez que ça marche très bien sur 12 semaines, et en étude double aveugle contre placebo, sur cette échelle de sévérité des jambes sans repos, et avec une persistance de l'efficacité à 40 semaines. Ça, ce traitement s'appelle Targine ou Targina en Europe, et malheureusement, il est non disponible en France. C'est quand même, je trouve, un scandale, et on est là pour en discuter aujourd'hui, qu'il y ait des médicaments en Europe, on essaie de faire tous l'Europe, qu'il y ait des traitements qui soient remboursés dans certains pays et pas dans d'autres, et même plus encore, il y a des traitements qui n'existent pas dans certains pays et pas dans d'autres. Et je trouve que c'est vraiment pas correct, et je comprends pas où est l'Europe là-dedans. Ma dernière diapo, éducation thérapeutique, donc médecine participative, le dernier P du P4, éducation thérapeutique et suivi. Il faut une évaluation régulière du rapport bénéfice-risque de la prise en charge. Il faut être suivi par des médecins experts de cette pathologie, parce que sinon il y aura des complications à moyen terme. Il faut que les patients soient éduqués via l'éducation thérapeutique, et je pense que l'aide de l'association des patients est importante à ce niveau pour aider les patients et aussi avoir plus de liens avec les experts de cette maladie. Préciser les causes et les conduites à tenir devant syndrome des jambes sans repos résistant. Et la prévention, c'est traiter la carence en fer, envisager de faibles doses, toujours de faibles doses d'agonistes dopaminergiques, et privilégier ceux à demi-vie longue, éviter certains médicaments, la levodopa donne beaucoup de syndromes d'augmentation, les antidépresseurs aggravent le syndrome des jambes sans repos, et prévenir les complications cardiovasculaires, notamment en fonction de l'allèle à risque, si les gens pouvaient avoir ce dépistage en population pas général, mais clinique du syndrome des jambes sans repos. Je crois qu'on est le seul centre en France à le faire, donc je trouve que c'est un peu dommage. Je vous remercie de votre attention.